L'étude de la valorisation minière appartient aux géosciences et traite des enrichissements naturels de matières premières, mais aussi de ressources solides, liquides ou gazeuses, présentes dans l'écorce terrestre, qui peuvent être utilisées à des buts économiques et ou industriels. Sa tâche tient dans l'approvisionnement de la société industrielle avec ses matières premières. Pour cette raison, la notion de valorisation minière est souvent tenue pour synonyme de géologie économique. Comme secteur de la géologie appliquée, l'étude des usages est également utile à de multiples services durant l'extraction minière des matières premières. Un domaine essentiel d'application de l'étude de la valorisation minière tient dans la reconnaissance des zones potentiellement riches en minerais et la mise en valeur, de même que l'exploration des gisements découverts. Cela demande un échantillonnage soigneux sur le terrain, comme par exemple par l'extraction par abrasion, forage, tunnel, etc. Le but de ces travaux est la définition de l'exacte position du gisement, ainsi que le calcul des réserves. À ce propos, la valorisation minière est souvent décrite comme géologie minière. Classification des gisements. Les gisements sont souvent simplement divisés d'après leur importance économique la plus élevée, comme les gisements aurifères ou d'uranium. Par ailleurs, les méthodes de la valorisation des gisements dépassent de loin les besoins pratiques immédiats de l'économie de matières premières et chevauchent les disciplines scientifiques de la géologie structurelle, de la géochimie, de la géophysique, de la minéralogie, de la pétrographie, de la pétrologie, ainsi qu'en cas de gisements biogènes, de la paléontologie. Le but de ces examens est une systématique des gisements, fondée non seulement économiquement, mais aussi scientifiquement. Une première marque distinctive des gisements est leur rapport de stockage avec la roche haute. Le corps de la matière première peut, comme dans le cas d'une intrusion magmatique, percer les paquets rocheux discordants ou suivre de manière concordante leur superposition interne. Deuxièmement, on distingue différentes sortes d'extensions spatiales. Les gisements tubulaires, comme les cheminées métallifères, volcaniques, ou les conduits des éruptions explosives remplis de conglomérats rocheux, porteurs de minerais, s'étendent le plus souvent verticalement de la profondeur à la surface. Là où les solutions minéralisantes s'élèvent dans les crevasses en surface et rencontrent des roches particulièrement réactives, se forment à l'occasion des minéralisations étendues nommées manteaux, se développant souvent de manière plus ou moins plane. Très souvent et de façon importante, les substrats de matières premières en forme de plaques montrent une forte extension en largeur et longueur, mais de faible épaisseur. En font partie non seulement les veines, mais aussi les couches de charbon et différents gisements sédimenteux stratiformes. Des gisements isométriques se composent de minerais métalliques, distribués régulièrement, dès lors nommés imprégnations. En font partie ici les mélanges de pétrole et de gaz dispersés dans des pores ou cavités de roches hautes. S'y sont rattachées les minéralisations de petites veines irrégulières et réseaux de veines, ou souvent aux vénules se croisant, ils seront décrits comme des masses, des stockwerks ou des poches. De même, aux surfaces de contact des intrusions magmatiques avec leurs roches hautes, des zones irrégulières de nouvelles formations minérales se forment souvent, nommées skarnes et greisen. Bien plus significative est la classification des gisements d'après leur genèse. Ce procédé est toutefois grevé de problèmes fondamentaux, car les représentations des processus qui mènent à l'enrichissement de matières premières dans l'écorce terrestre sont aujourd'hui même en développement, et pas toujours définitivement éclaircies. En outre, la formation d'un gisement est souvent liée à plus d'un processus. Dès lors, dans une stricte classification d'un gisement d'après sa formation, un même gisement appartiendrait à plusieurs types de gisements différents. Pour cette raison, certains chercheurs préfèrent une nomenclature se rapportant simplement à l'exemple le plus connu pour un type de gisement déterminé, comme le type Olympic Dam, Broken Hill ou Savage River. Cependant, ce procédé n'est pas moins arbitraire et en cela bien moins probant. D'un autre côté, existe un fossé presque insurmontable entre le besoin du chercheur d'une classification la plus simple et claire possible et le besoin simultané d'une couverture aussi complète que possible de tous les faits observés. Quelques-uns des gisements dits en couche en livrent ici un bon exemple. Ainsi, la manière dont les gisements en couche qui viennent d'être mentionnés sont rattachés à des horizons stratigraphiques déterminés, comme par exemple les gisements d'uranium du plateau de Colorado au Wyoming, liés à des grès, et les gisements de zinc et plomb du type Mississippi Valley, le type à roches de carbonate tels que des calcaires coralliens et des bancs de vase carbonés. Pourtant, les minéralisations elles-mêmes ne sont pas nécessairement en couche, mais peuvent aussi présenter des formes en masse ou irrégulières. Pour la majorité de ces minéralisations, on part de l'idée qu'elles se sont formées après le dépôt des sédiments. Cependant, selon d'autres opinions, existe une formation simultanée et pour certains gisements, on trouve l'un et l'autre. L'examen des proportions d'isotopes dans les différents gisements indique le plus souvent une origine des métaux dans les couches de terre plus profondes, et parfois cependant aussi sur des concentrations dans d'étroits bassins marins. Ainsi, cela n'étonnera pas que certains chercheurs voudraient subsumer tous ces gisements sous un unique concept général, alors que d'autres proposent pratiquement pour chaque gisement connu un type propre. Formation du minerai. Une classification courante classe les gisements en trois types de roches essentielles. Les magmatites, les sédiments et les métamorphites. Formation magmatique. Cristallisation précoce. Certains minéraux à très haut point de fusion, comme par exemple la chromite, peuvent s'éliminer très tôt dans les roches liquides en fusion, magma. Si ces minéraux ont un poids spécifique plus lourd que la lave, ils s'enfoncent dans la chambre magmatique où ils s'enrichissent. Divers courants magmatiques et processus de différenciation peuvent mener alors à une coulure ou superposition de minéraux à l'intérieur de l'intrusion. Comme par exemple dans les gisements de chrome ou du complexe Bushveld en Afrique du Sud. Dans d'autres cas, peut survenir une séparation de composants déterminés ne pouvant être mélangés dans la fusion de même que l'eau se sépare de l'huile. Dans des masses de silicate de sulfure, des gouttes de sulfure se séparent, par exemple. Dans ces gouttes particulièrement, des cuivres et le nickel, de même que des métaux du groupe de platine, se concentrent. Si les gouttes séparées se réunissent ensemble, de vastes gisements de sulfure peuvent apparaître, comme par exemple dans le Greater Sunbury, au Canada. Cristallisation principale est tardive. Après la cristallisation des roches profondes et des dalles sans profondeur, et des roches effusives de surface, demeurent principalement des masses résiduelles fondues dans lesquelles les éléments déterminés se sont enrichis qui, pour des raisons physico-chimiques, ne peuvent que difficilement prendre place dans la formation des cristaux de roches les plus fréquents. Aux produits de la cristallisation tardive issus de ces masses résiduelles fondues appartiennent les dépôts de phosphore, d'aluminium, d'apatite, de néphélite, ainsi que les formations calcaires inorganiques. À ces complexes de roches alcalines, appartiennent d'importants gisements de terres rares et les gisements de phosphate inorganique. Un signe distinctif des fusions résiduelles subsistant actuellement est qu'elles contiennent de plus en plus d'eau. Donc, en raison de l'énorme pression rocheuse, les bains fortement surchauffés ne peuvent bouillir. Les suintements dans cette phase extrêmement critique sont par exemple les gisements de terres rares dans les gangues de pegmatite. Kimberlite et lamproïte. Un cas extrême de la formation magmatique est représenté par les éruptions violentes qui ont produit des cheminées de pénétration volcanique ou pipes de kimberlite et lamproïte. Heureusement, la plupart de ces événements désastreux appartiennent à un passé très éloigné. Existe pourtant à l'ouest australien des incidences d'un âge radiométrique de seulement 20 millions d'années. Le minerai financièrement le plus intéressant de cette sorte de gisement est le diamant, qui figure comme une composante exotique dans les brèches volcaniques. Puisque des diamants se forment seulement sous de hautes pressions et températures, ils doivent provenir de régions de plus de 120 km, qui sont recouvertes par la croûte continentale d'au moins 60 km. À la surface terrestre, les cheminées de pénétration présente le plus souvent un diamètre de moins d'1 km². En profondeur, elles se rétrécissent encore et finissent enfin aux structures stratifiées remplies de kimberlite. Depuis ces zones racinaires, on suppose qu'elles sont rattachées aux zones de faiblesse régionale par des extensions de fissures et des formations de crevasses qui courent jusqu'au niveau du manteau supérieur. Après l'éruption explosive des magmas riches en gaz, peut intervenir occasionnellement l'intrusion lente de plus petits corps magmatiques dans les diatrèmes. Phase hydrothermale. Finalement, après sécrétion de tous les minéraux formant les roches effusives résiduelles, demeurent seulement les solutions saturées de minerais, dites saumures hydrothermales ou fluides. En raison des conditions extrêmes et de la composition très variable de ce fluide, leurs qualités sont très difficilement reproductibles en laboratoire. On suppose cependant qu'elles sont susceptibles de dissoudre les matières les plus diverses, de les transporter et de les libérer à nouveau à une autre place. Elles contribuent en cela essentiellement à la formation des plus grands gisements en strates et piles de minerais. Veines. Jusqu'au XXe siècle, les veines livraient dans le monde entier la plupart des gisements les plus riches en or, argent, cuivre, étain, plomb et autres métaux. En conséquence, ils étaient importants pour le développement théorique sur la valorisation minière. En raison de forts contenus en minerais, ils ont aujourd'hui encore de l'importance économique. Cependant, en raison de leur faible extension, ils sont souvent, avec la technologie de l'industrie minière actuelle, sévèrement réduits. Dans les plus hautes parties de l'écorce terrestre, les fluides se mélangent avec les eaux de couche de surface mises en circulation sous l'effet de la chaleur de l'intrusion magmatique. Ainsi, des systèmes géothermiques se forment dans des fentes ouvertes et des colonnes qui peuvent atteindre jusqu'à la surface terrestre. Un autre mécanisme qui pourrait transporter les solutions minéralisantes à la surface sont ce qu'on appelle les pompes sismiques, c'est-à-dire l'ouverture et fermeture par à-coup des dislocations tectoniques au cours d'un tremblement de terre. Avec la diminution de pression et de température, on subdivise la minéralisation hydrothermale en catathermale, mésothermale et enfin épithermale, par exemple les sources chaudes et les émanations de vapeur. Gisements d'imprégnation et de stratification. Dans les roches qui seront fortement sollicitées et cisaillées, les dislocations et zones de tension s'élargissent souvent à des zones échelonnées extensives, dans lesquelles les fluides peuvent se répandre dans de nombreux petits passages et veines. Alors, la roche voisine est également fortement attaquée, le plus souvent par les solutions minéralisantes, et montre des changements caractéristiques, qu'on appelle aussi altérations. Ces étinges ou strates se développe souvent à l'interface entre des perturbations et des frontières bien découpées de couches. S'il s'agit alors de roches particulièrement réactives, comme des carbonates, des sédiments carbonés, des tufs volcaniques, ou des laves particulièrement riches en bulles, la minéralisation finement répartie peut s'y étendre des bords jusque loin dans les paquets de couches. À ceux-ci appartiennent par exemple les gisements riches en volume, du type carlin aux USA, qui sont décrites comme des gisements d'or invisibles à cause de leur incrustation à grains très fins. Ce n'est que depuis la fin des années 1960 que des gisements d'imprégnation en uranium ont été mis à jour au Canada et en Australie, liés aux surfaces d'érosion entre les principaux socles cristallins et les sédiments métamorphiques en recouvrement. Les gisements dits de cuivre porphyrique représentent un type financièrement particulièrement important d'imprégnation et de gisements en strates. Il s'agit en cela des gisements présentant des contenus de minerais relativement restreints, mais de volumes souvent immenses. Aujourd'hui, la moitié de la production mondiale de cuivre revient au cuivre porphyrique, mais également aussi les plus grandes carrières jamais produites par les hommes sur l'écorce terrestre. Au contraire des gisements stratifiés, se présentant en surface, les cuirs porphyriques se forment typiquement dans les parties supérieures d'intrusions acides et intermédiaires, comme le granit et la diorite. Alors que les minéraux montrent des dimensions de grains le plus souvent égales au bord de cette intrusion, de plus grands cristaux se forment à l'intérieur dans une matrice granulée identiquement, Cette structure est considérée comme un indice sur un refroidissement relativement rapide et une cristallisation de l'intrusion. On suppose que la pression des vapeurs des solutions minéralisantes a dépassé à un moment donné quelconque la pression de roche dans le domaine supérieur de la chambre magmatique et que la roche environnante fut brisée par un bouillonnement par refroidissement. Les solutions minéralisantes se cristallisèrent ainsi en lieu et place avant de s'évacuer dans des veines ou des roches plus éloignées.